Chapitre 10. Où nos voyageurs ont une aventure très extraordinaire. Jones et son ami venaient de terminer leur dialogue quand ils se trouvèrent au pied d'une colline fort escarpée. Jones s'arrêta tout à coup et, mesurant des yeux le sommet, garda un moment le silence. Enfin, il s'adressa à son compagnon et lui dit « Partridge, je voudrais bien être au haut de cette colline. On doit certainement avoir de là une vue délicieuse, surtout par le genre de lumière qui brille en ce moment. Cette pâle clarté que la lune répand sur tous les objets est d'une beauté inexprimable, pour une imagination qui se plaît à nourrir des idées mélancoliques. » « Très probablement, répondit Partridge. Mais si le haut de la colline est propre à fournir des idées mélancoliques, je suppose que le bas doit aussi en produire de gaies, et je tiens que ces dernières sont beaucoup plus agréables. Je vous proteste que vous m'avez glacé le sang en me parlant seulement du haut de cette colline qui me paraît une des plus élevées qui soit dans le monde. Non, non, si nous avons quelque chose à chercher, que ce soit un lieu sous terre où nous puissions nous mettre à l'abri du froid. « Eh bien, cherchez, dit Jones, mais que ce soit à la portée de la voix, je vous appellerai à mon retour. »« Sûrement, monsieur, vous n'êtes pas fou, dit Partridge. »« En vérité, je le suis, répondit Jones, si c'est une folie de grimper au sommet de cette colline. Mais puisque vous vous plaignez déjà tant du froid, je vous engage à rester en bas. Je serai sûrement de retour dans une heure. »« Je vous demande pardon, monsieur, s'écria Partridge, je suis résolu à vous suivre partout où vous irez. » La vérité est qu'il avait peur de rester en arrière, car, quoiqu'il fût d'ailleurs assez poltron à tous égards, sa plus grande crainte était celle des fantômes, lesquels, l'heure présente de la nuit et la situation sauvage du lieu, semblaient convenir parfaitement. En cet instant, Partridge découvrit à travers les arbres une faible lumière qui paraissait fort près d'eux. Il s'écria aussitôt avec ravissement « Oh, monsieur, le ciel a enfin entendu mes prières !» et nous a conduit à une maison. C'est peut-être une auberge. Je vous en supplie, monsieur, si vous avez quelque pitié de moi ou de vous-même, ne dédaignez pas la bonté de la Providence, et dirigeons-nous sur le champ vers cette lumière que je vois là-bas. Que ce soit une auberge ou non, je suis sûr que si ce sont des chrétiens qui l'habitent, ils ne refuseront pas une petite chambre à deux personnes qui se trouvent dans notre misérable situation. Jones céda enfin aux instantes supplications de Partridge, et tous deux dirigèrent au moment même leurs pas vers le lieu d'où sortait la lumière. Ils arrivèrent bientôt à la porte de cette maison ou de cette chaumière, car on pouvait sans beaucoup d'inconvenance lui donner l'un ou l'autre de ces deux noms. Jones y frappa plusieurs fois sans recevoir aucune réponse de l'intérieur. Alors Partridge, dont la tête n'était pleine que de fantômes, de diables, de sorciers et de choses semblables, commença à trembler et s'écria « Que le ciel ait pitié de nous. Certainement, les gens de la maison sont tous morts. Je ne vois de lumière nulle part. Et je suis sûr d'avoir vu une chandelle qui brûlait il n'y a qu'un moment. J'ai déjà entendu parler de pareilles choses. De quoi as-tu entendu parler ? Dit Jones. Ou les gens sont profondément endormis, ou probablement, comme ce lieu est désert, ils ont peur d'ouvrir leurs portes. Il se mit alors à crier assez haut, et enfin une vieille femme, ouvrant la fenêtre d'une chambre, au-dessus du rez-de-chaussée, leur demanda qui ils étaient et ce qu'ils demandaient. Jones répondit qu'ils étaient des voyageurs qui avaient perdu leur chemin et qu'ayant vu une lumière à travers la fenêtre, ils y avaient été conduits par l'espoir de trouver un peu de feu pour se réchauffer. « Qui que vous soyez, s'écria la vieille, vous n'avez que faire ici, et je n'ouvrirai la porte à personne à cette heure de la nuit. » Partridge, que le son d'une voix humaine avait un peu guéri de sa frayeur, la conjura avec les plus vives supplications de l'admettre pendant quelques minutes auprès du feu. Disant qu'il était presque mort de froid, état cruel auquel la peur avait en effet autant contribué que la gelée. Il l'assura que celui qui parlait était un des premiers gentilshommes du comté, et fit usage de tous les arguments possibles, à l'exception d'un seul, que Jones employa ensuite avec succès. Ce fut la promesse d'une demi-couronne. Présent trop considérable pour être refusé par une personne de cette espèce, surtout lorsque le ton affable de Jones et son agréable figure, que la clarté de la lune lui découvrait parfaitement, eurent entièrement dissipé les craintes qu'elle avait d'abord conçues. Elle consentit donc enfin à la laisser entrer dans la maison où Partridge, à sa grande joie, trouva un bon feu prêt pour le recevoir. Le pauvre diable ne fut pas plutôt réchauffé que les idées qui régnaient toujours dans son esprit recommencèrent à lui troubler un peu le cerveau. Il n'y avait pas d'article de sa croyance auquel il ajouta plus de foi qu'à la sorcellerie, et le lecteur ne peut concevoir une figure plus propre à inspirer cette idée que celle de la vieille femme qui se tenait là, debout devant lui. Elle ressemblait exactement au portrait que nous a tracé Otway dans son Orpheline, et il est certain que si cette femme eût vécu sous le règne de Jacques Ier, on l'eût pendue sur sa seule figure, et presque sans aucune autre preuve. Beaucoup de circonstances conspiraient encore à confirmer Partridge dans son opinion. Il voyait cette femme habiter seule, à ce qu'il croyait, dans un lieu désert, et dans une maison dont l'extérieur paraissait déjà beaucoup trop bon pour elle, mais dont le dedans était meublé avec toute la propreté et toute l'élégance imaginable. À dire vrai, Jones lui-même n'était pas peu surpris de ce qu'il voyait, car outre l'extrême propreté de la chambre, elle était encore ornée d'un grand nombre de meubles précieux et de curiosités qui auraient attiré l'attention d'un savant. Tandis que Jones admirait toutes ces choses, et que Partridge était assis tout tremblant dans la ferme croyance qu'il était dans la maison d'une sorcière, la vieille femme leur dit « J'espère, messieurs, que vous vous dépêcherez le plus que vous pourrez, car j'attends mon maître à chaque minute, et je ne voudrais pas, pour le double de l'argent que vous m'avez donné, qu'il vous trouvât ici. » « Vous avez donc un maître, » dit Jones. « En effet, vous m'excuserez, bonne femme, mais j'étais surpris de voir toutes ces belles choses dans votre maison. » « Ah, monsieur, » dit-elle, « si la 20e partie de ces choses était à moi, je me croirais une femme riche. Mais je vous en prie, monsieur, ne demeurez pas encore longtemps, car je l'attends à chaque minute. »« Et quoi ?» dit Jones. « Il ne vous gronderait sûrement pas d'avoir fait un acte de charité fort ordinaire. »« Ouais, monsieur, » dit-elle, « c'est un homme étrange et qui ne ressemble pas du tout aux autres hommes. Il ne voit personne, ne sort guère que la nuit, car il ne se soucie pas d'être vu, et tous les gens du pays n'ont pas moins peur de le rencontrer, attendu que son habillement suffit pour effrayer ceux qui n'y sont pas accoutumés. On l'appelle l'homme de la colline, car c'est là qu'il se promène la nuit. Et je crois que les gens du pays n'ont pas plus peur du diable lui-même. Il serait dans une colère terrible s'il vous trouvait ici. « Je vous en prie, monsieur, » dit Partridge, « n'offensons pas ce monsieur-là. Je suis prêt à marcher, et je n'ai jamais eu plus chaud de ma vie. Je vous en prie, monsieur, allons-nous-en. Je vois là des pistolets sur la cheminée. Qui sait s'ils sont chargés ou non, et ce qu'il en pourrait faire ?»« Ne crains rien, Partridge, » dit Jones. « Je te garantis qu'il ne t'arrivera aucun mal. »« Oh, quant à cela, » dit la vieille, « il ne fait jamais de mal. » Mais il est bien nécessaire qu'il ait des armes pour sa propre sûreté, car sa maison a été assiégée plus d'une fois, et l'une des dernières nuits encore, nous avons cru entendre des voleurs aux environs. Pour moi, je me suis souvent étonné qu'il n'ait pas déjà été assassiné par quelque scélérat, depuis qu'il se promène tout seul à ces heures-ci. Mais comme je disais, c'est qu'on en a peur. On croit d'ailleurs, je suppose, qu'il n'a rien sur lui qui vaille la peine de le voler. « Cette collection de raretés, » dit Jones, « me ferait croire que votre maître a été un grand voyageur. »« Oui, monsieur, » répondit-elle, « un très grand voyageur. » »« Il y a peu de gens plus instruits que lui sur toutes sortes de sujets. »« Je m'imagine qu'il a été malheureux en amour ou en quelque autre chose que je ne puis dire. »« Mais voilà plus de 30 ans que je demeure chez lui, et pendant tout ce temps, je ne crois pas qu'il ait parlé à plus de 6 personnes vivantes. » Alors elle les conjura de nouveau de hâter leur départ, en quoi elle fut secondée par Partridge. Mais Jones traînait à dessein le temps en longueur, car il avait senti augmenter de plus en plus sa curiosité de voir cet homme extraordinaire. Quoique la vieille termina chacune de ses réponses en le priant de s'en aller, et que Partridge alla jusqu'à le tirer par la manche, il continuait toujours à inventer de nouvelles questions jusqu'à ce que la vieille femme, avec un visage effrayé, lui eut déclaré qu'elle reconnaissait le signal de son maître. Et au même instant, l'on entendit plusieurs voix au dehors, s'écriant toutes ensemble, « Au diable, donnez-nous sur le champ votre bourse !»« Votre bourse, coquin, ou nous vous ferons sauter la cervelle !»« Oh, bon Dieu !» s'écria la vieille, « quelques scélérats ont sans doute attaqué mon maître. Ô ciel, que ferai-je? Que ferai-je?
Quoi? S'écria Jones, quoi? Ces pistolets sont-ils chargés?
Oh, mon bon monsieur, ils ne le sont pas, je vous assure.
Oh, je vous en prie, messieurs, ne nous tuez pas.
Car elle avait réellement la même opinion de ceux du dedans que de ceux du dehors.
Jones ne répondit pas, mais saisissant un vieux sabre qui était pendu dans la chambre, il s'élança dehors sans différer et trouva le maître du logis se débattant contre deux scélérats et criant merci.
Jones, sans faire de questions, fit voltiger son sabre avec tant de prestesse sur les deux scélérats qu'ils ne tardèrent pas à lâcher prise, et sans oser attaquer notre héros, montrèrent les talons au plus vite et parvinrent à se sauver, car, content de leur avoir arraché leur victime, il ne tenta pas de les poursuivre. Il avait d'ailleurs raison de croire que leur affaire était faite, d'autant plus qu'il les entendit s'écrier en fuyant, avec les plus horribles imprécations, qu'ils étaient des hommes morts.
Jones se précipita aussitôt pour relever le bon vieillard, qui avait été renversé pendant le combat, lui témoignant en même temps une grande inquiétude qu'il n'eût été blessé par les scélérats. Le vieillard fixa Jones un moment, puis il lui dit « Non, monsieur, non, j'ai bien peu de mal. Je vous remercie. Que le ciel ait pitié de moi. »
« Je vois, monsieur, dit Jones, que vous n'êtes pas encore sans crainte, même de ceux qui ont eu le bonheur de vous sauver, et je ne puis blâmer vos soupçons, quels qu'ils soient. Mais je vous proteste que vous n'avez aucun motif d'en avoir. Vous ne voyez plus maintenant ici que des amis. Ayant perdu notre route cette nuit et mourant de froid, nous avons pris la liberté de nous chauffer à votre feu, et nous le quittions au moment même où nous vous avons entendu appeler au secours. Secours, je dois en convenir, que la Providence seule semble vous avoir envoyé.
C'est la Providence, en effet, s'écria le vieillard, si la chose est ainsi.
C'est ce que je peux vous assurer, s'écria Jones.
Voici votre sabre, monsieur. Je m'en suis servi pour votre défense, et je le remets en vos propres mains.
Le vieillard, ayant repris son sabre, qui était teint du sang de ses ennemis, regarda Jones avec attention pendant quelques minutes, et lui dit avec un soupir « Pardonnez-moi, jeune homme, je n'ai pas toujours été d'un caractère soupçonneux, et je hais l'ingratitude. Remerciez donc, s'écria Jones, cette providence à qui vous devez votre salut. Quant à moi, je n'ai fait que remplir les plus simples devoirs de l'humanité. J'en aurais fait autant pour tout autre de mes semblables dans votre situation. »
« Laissez-moi vous regarder un peu plus longtemps, s'écria le vieillard.
Vous êtes donc une créature humaine?
Oui, je crois que vous en êtes une.
Venez, entrez, je vous prie, dans ma petite cabane. Vous avez été en effet mon libérateur. »
La vieille femme ne savait ce qui l'agitait le plus, de la crainte qu'elle avait de son maître ou de celle qu'elle avait pour lui. Et Partridge était encore plus effrayé, s'il était possible. Cependant, quand la première eut entendu son maître parler à Jones avec amitié, et eut été instruite de ce qui s'était passé, elle revint à elle. Mais Partridge n'aperçut pas plutôt le vieillard que la singularité de son habillement remplit l'âme du pauvre diable de terreur plus vive qu'il n'en avait encore éprouvée en entendant l'étrange description qui lui en avait été faite et le tumulte qui avait eu lieu à la porte. À dire vrai, son aspect aurait pu frapper un esprit plus ferme que celui de M. Partridge. Ce personnage était de la plus haute taille, avec une longue barbe aussi blanche que la neige. Il était vêtu d'une peau d'âne, taillée à peu près comme une casaque. Il portait aussi des bottes et un chapeau, tous deux faits de la peau de quelques autres bêtes. Aussitôt que le vieillard entra dans sa maison, la vieille commença à le féliciter d'avoir heureusement échappé à ses assassins. « Oui, dit-il, je leur ai échappé, en effet, mais grâce à mon libérateur. »
« Oh, le ciel le bénira. C'est un bien bon jeune homme. Je le garantis pour tel. J'avais peur que votre seigneurie ne se mît en colère contre moi pour l'avoir laissé entrer, et certainement je ne l'aurais pas fait si je n'avais vu au clair de la lune que c'était un gentilhomme, et de plus qu'il était presque mort de froid. Et très certainement ce doit être quelque bon ange qui l'ait envoyé ici et qui m'ait conseillé de le recevoir.
Je crains bien, monsieur, dit le vieillard à Jones, de n'avoir rien de bon ici à vous offrir à manger ou à boire, à moins que vous ne vouliez accepter une goutte d'eau-de-vie. Je peux vous en donner d'excellentes, que je garde depuis 30 ans. » Jones refusa son offre d'un ton poli et convenable. Le vieillard lui demanda alors où il allait quand il avait perdu son chemin. « Je dois vous avouer, ajouta-t-il, que je suis surpris de voir une personne, telle que vous me paraissez être, voyager à pied à 7 heures de la nuit. Je suppose, monsieur, que vous êtes un gentilhomme de ces comtés, car vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui ait l'habitude de faire une longue course de cette manière. » « Les apparences, répondit Jones, sont quelquefois trompeuses. Les hommes ont souvent l'air de ce qu'ils ne sont pas. Je vous assure que je ne suis pas de ce comté, et quant au lieu où je vais, c'est tout au plus en vérité si je le sais moi-même. » « Qui que vous soyez, et en quelque lieu que vous alliez, répondit le vieillard, je vous ai des obligations que je ne pourrai jamais reconnaître. Je vous proteste que vous ne m'en avez aucune. Il ne peut y avoir aucun mérite à avoir hasardé pour votre service ce à quoi je n'attache aucune valeur, car rien n'est si méprisable à mes yeux que la vie. « Je suis fâché, jeune homme, répondit le vieillard, que vous ayez déjà quelque motif d'être si malheureux à votre âge. » « Je suis en effet, monsieur, répondit Jones, le plus malheureux des hommes. « Peut-être avez-vous perdu un ami ou une maîtresse, répliqua le vieillard. « Comment avez-vous pu, s'écria Jones, prononcer 2 mots qui suffisent pour me faire perdre la raison ?»« Un seul suffit pour cela, répondit le vieillard. « Je ne vous ferai plus de questions. « Peut-être ma curiosité m'a-t-elle déjà entraîné trop loin. « Je dois vous l'avouer, monsieur, s'écria Jones, « je ne puis blâmer une curiosité que je ressens moi-même en cet instant avec la plus vive ardeur. « Pardonnez-moi donc quand je vous assure que tout ce que j'ai vu et entendu depuis ma première entrée ici, s'est réuni pour exciter en moi le plus vif intérêt. Il faut que quelque chose de très extraordinaire vous ait déterminé à ce genre de vie. » Ici le vieillard poussa encore un soupir et garda quelque temps le silence. Enfin, après avoir regardé Jones attentivement, il lui dit « J'ai lu qu'une physionomie heureuse était une lettre de recommandation. S'il est ainsi, personne ne peut être plus puissamment recommandé que vous. Si une autre considération ne me faisait pas d'ailleurs éprouver pour vous un sentiment intérieur extrêmement tendre, il faudrait que je fusse le plus grand monstre d'ingratitude qu'on ait vu sur la terre. Et je suis réellement affligé de ne pouvoir vous prouver ma reconnaissance autrement que par des paroles. » Jones, après avoir hésité un moment, lui répondit qu'il pouvait par des paroles lui faire le plus grand plaisir. « Je vous ai avoué, monsieur, dit-il, quelle était ma curiosité. Je n'ai pas besoin de vous dire combien je vous serais obligé si vous daignez la satisfaire. Souffrez donc que je vous prie, à moins que quelques considérations ne vous retiennent, d'avoir la bonté de m'instruire des motifs qui vous ont engagé à vous séquestrer ainsi de la société des hommes et à adopter un genre de vie pour lequel il paraît assez évident que vous n'étiez pas né. Je ne me sens presque plus libre de vous rien refuser après ce qui s'est passé, répliqua le vieillard. Et puisque vous désirez entendre l'histoire d'un homme malheureux, je vous la raconterai. Vous avez raison de penser qu'il y a presque toujours quelque chose d'extraordinaire dans la destinée de ceux qui fuient la société. Car, quoique cela puisse paraître un paradoxe ou même une contradiction, il est certain que l'excès de la philanthropie nous porte surtout à fuir et à détester les hommes, non pas tant à cause de leurs vices particuliers et personnels, qu'à cause de ceux qui sont relatifs aux autres, tels que l'envie, la méchanceté, la perfidie, la cruauté et toutes les autres espèces de malveillance. Voilà les vices que la véritable philanthropie aborde, et qui lui font éviter la société elle-même pour ne pas les voir. Cependant, sans vouloir vous faire un compliment, vous ne me paraissez pas être un de ceux que je dusse fuir ou détester. Je dois même dire, d'après le peu qui vous est échappé, qu'il paraît y avoir quelque conformité dans notre destinée, mais j'espère que la vôtre s'achèvera plus heureusement. » Après quelques compliments de part et d'autre, entre notre héros et son hôte, celui-ci allait commencer son histoire, quand Partridge l'interrompit. Ses craintes l'avaient en partie abandonné, mais les effets de sa première terreur n'étaient pas encore passés. Il fit en conséquence souvenir le vieillard de cette excellente eau-de-vie dont il avait parlé. On en apporta sur le champ, et Partridge en avala un grand verre. Alors le vieillard, sans aucun autre préambule, se mit à raconter ce qu'on peut lire dans le chapitre suivant. Chapitre 11. Dans lequel l'homme de la colline commence à raconter son histoire. Je suis né dans un village de Somersetshire appelé Mark, en l'année 1657. Mon père était du nombre de ceux qu'on appelle Monsieur le Fermier. Il avait en propre un petit bien d'environ 300 livres de revenus, et en affermait un autre de la même valeur à peu près. Il était sage, industrieux, et si bon agriculteur, qu'il aurait pu mener une vie fort aisée et fort douce, si sa femme, qui était une franche mégère, n'avait pas empoisonné son bonheur domestique. Mais quoique cela le rendît peut-être misérable, il n'en fut pas plus pauvre, car il la tenait presque absolument renfermée à la maison, aimant mieux supporter ses éternelles criailleries dans son intérieur que nuire à sa fortune en la laissant se livrer à ses extravagantes fantaisies dans le monde. De cette Xantippe, c'est ainsi que s'appelait la femme de Socrate, dit Partridge, de cette Xantippe, il eut deux fils dont j'étais le plus jeune. Il s'était proposé de nous donner à tous deux une bonne éducation. Mais mon frère aîné, qui malheureusement pour lui était le favori de ma mère, négligea absolument son instruction, au point qu'après avoir été 5 ou 6 ans à l'école, et n'y avoir fait que peu ou point de progrès, mon père, averti par son maître qu'il serait inutile de l'y laisser plus longtemps, céda enfin au désir de ma mère et le reprit à la maison, après l'avoir ôté des mains de celui qu'elle appelait le tyran de mon frère, quoiqu'en effet il corrigea l'enfant beaucoup moins que sa paresse ne le méritait, mais beaucoup plus, à ce qu'il semble, que le jeune homme ne le trouvait bon, car il se plaignait constamment à sa mère du traitement rigoureux dont il était la victime, et elle ne manquait jamais de lui prêter une oreille favorable. « Oui, oui, » s'écria Partridge, « j'ai vu des mères comme cela, moi qui vous parle. J'ai été aussi calomnié par elles très injustement. De telles mères mériteraient d'être corrigées autant que leurs enfants. » Jones gronda le pédagogue d'avoir interrompu le vieillard, qui continua ainsi. Mon frère, alors âgé de 15 ans, renonça à toute espèce de science et ne s'occupa plus que de son chien et de son fusil, dont il parvint à se servir avec tant d'adresse que le fait dût-il paraître incroyable, non seulement il était sûr de toucher un but fixe et marqué, mais il ne manquait jamais un oiseau en l'air. Il excellait encore dans l'art de surprendre un lièvre au gîte, et fut bientôt renommé comme l'un des meilleurs chasseurs du comté, réputation dont sa mère et lui tiraient autant de vanité que s'il eût passé pour l'homme de lettres le plus accompli. La situation de mon frère me fit d'abord penser que la mienne était la plus cruelle, puisqu'on me laissait à l'école, mais je changeai bientôt d'opinion, car, comme je faisais des progrès sensibles, le travail me devenait facile et l'occupation si agréable que les fêtes et les dimanches étaient le temps où je m'ennuyais le plus. Ma mère, qui ne m'aima jamais, craignant alors que je n'eusse la plus grande part dans l'amitié de mon père, et voyant, supposant au moins que j'étais plus considéré que mon frère par quelques personnes instruites, et notamment par le curé de la paroisse, souffrait tellement à me voir et me rendait la maison si désagréable que ce que les écoliers appelaient le fatal lundi était pour moi le jour le plus heureux de l'année. Ayant fini toutes mes premières classes à Taunton, je fus envoyé au collège d'Exeter à Oxford, où je demeurai 4 ans, à la fin desquels un accident m'arracha tout à fait à mes études. C'est de là que je peux dater l'origine de tout ce qui m'est arrivé dans le cours de ma vie. Il y avait de mon temps au même collège un certain Sir George Gresham, jeune homme décidé à une fortune très considérable, dont le testament de son père ne lui accordait la pleine jouissance qu'à l'âge de 25 ans. Cependant, la libéralité de ses tuteurs lui donnait peu de motifs de regretter l'extrême précaution de son père, car il lui allouait 500 livres par an pendant son séjour à l'université, où il entretenait des chevaux et une fille publique, et menait une vie aussi débauchée, aussi scandaleuse qu'il aurait pu le faire, s'il avait été entièrement maître de sa fortune. Outre les 500 livres qu'il recevait de ses tuteurs, il trouvait les moyens d'en dépenser 1000 de plus, car, ayant alors plus de 21 ans, il ne lui était pas difficile d'obtenir tout le crédit qu'il désirait. Parmi une foule d'autres qualités assez mauvaises, ce jeune homme en avait une vraiment diabolique. Il se faisait un grand plaisir de perdre et de ruiner les jeunes gens d'une fortune inférieure à la sienne, en les entraînant dans des dépenses qu'ils ne pouvaient soutenir aussi bien que lui. Plus un jeune homme avait d'heureuses dispositions, plus il avait de sagesse et de mérite, et plus Gresham trouvait de plaisir et de gloire à le perdre, faisant ainsi le rôle du diable, tel qu'on nous le peint, et cherchant partout une victime à dévorer. Ce fut un malheur pour moi de faire connaissance avec ce jeune homme, et de me lier intimement avec lui. Ma réputation d'écolier diligent et studieux m'offrit à ses yeux comme un objet digne de ses intentions perverses. Et ma propre inclination lui permit d'effectuer son projet avec beaucoup de facilité. Car bien que je me fusse appliqué avec beaucoup de soin à la lecture, et que j'y eusse toujours pris un grand plaisir, je sentais qu'il y avait d'autres occupations auxquelles il m'était possible d'en prendre beaucoup davantage encore. Mes esprits animaux étaient toujours dans la plus violente agitation. J'étais extrêmement vif, un peu ambitieux et d'un tempérament très porté à la galanterie. Je n'eus pas plutôt contracté une liaison intime avec Sir George que je fus associé à tous ses plaisirs. Et dès que j'eus débuté sur ce nouveau théâtre, ni mon inclination ni ma fierté ne me permirent d'y jouer le second rôle. Je ne pouvais souffrir qu'un de mes compagnons allât plus avant que moi dans aucune partie de débauche. Je me distinguai même bientôt d'une manière si remarquable dans tous les désordres et tous les excès que mon nom se trouvait généralement le premier sur la liste des coupables. Au lieu d'être plaint comme le malheureux disciple de Sir George, je fus accusé d'avoir perdu et débauché ce jeune homme qui donnait de si belles espérances. Et quoiqu'il fût le chef de file et l'auteur de tout le mal, il n'était jamais considéré comme tel. Je finis donc par encourir la censure du vice-chancelier et fus sur le point d'être chassé. Vous n'aurez pas de peine à croire, monsieur, qu'une vie pareille à celle dont je viens de vous faire le tableau devait être incompatible avec de nouveaux progrès dans les sciences, et que plus je me livrais à la débauche, moins je devais mettre d'application à mes études. Cette conséquence ne fut que trop vraie, mais ce ne fut pas là tout. Mes dépenses excédaient de beaucoup non seulement la première pension que me faisaient mes parents, mais encore les sommes additionnelles que j'arrachais à la générosité de mon pauvre père, sous prétexte que cet argent était nécessaire pour me préparer à prendre sous peu le grade de bachelier à l'université. Cependant, ces demandes devinrent à la fin si fréquentes et si exorbitantes que par degrés, mais non sans peine, mon père ouvrit l'oreille aux nombreux rapports qu'on lui faisait de ma conduite, rapports que ma mère ne manquait jamais de répéter plus haut et plus fidèlement que personne, sans oublier d'y ajouter ses commentaires. Voilà donc le joli garçon, le savant qui fait tant d'honneur à sa famille et qui doit l'enrichir. J'avais prévu à quoi toute cette science devait aboutir. Il nous ruinera tous infailliblement, je le vois, tandis que pour l'amour de lui, on a refusé à son frère jusqu'au nécessaire. Et pour quoi faire? Pour perfectionner l'éducation d'un vaurien qui devait nous en payer ce bel intérêt. J'avais prévu comment tout cela se terminerait. Elle en disait encore beaucoup davantage sur ce ton, mais ce peu, je crois, doit vous suffire. Mon père commença donc, dès ce moment, à répondre à mes demandes d'argent par des reproches, ce qui amena peut-être un peu plus tôt une crise dans mes affaires. Mais quand il m'aurait fait passer tout son revenu, vous imaginez bien qu'il n'aurait pas longtemps suffi pour soutenir un jeune homme qui faisait les mêmes dépenses que Sir George Gresham. Il est extrêmement probable que la détresse pécuniaire dans laquelle je me trouvais alors et l'impossibilité de continuer le même genre de vie m'auraient rendu tout à la fois à la raison et à mes études, si j'eusse ouvert les yeux avant de me trouver accablé de dettes dont je ne voyais aucun espoir de me libérer. C'était là le grand art de Sir George, et celui par lequel il achevait la ruine d'un grand nombre de ses camarades, dont il se moquait ensuite, les traitant de sots et de faquins, qui, disait-il, osaient se mesurer avec un homme comme lui. Pour venir adroitement à bout de son dessein, il avançait lui-même quelque argent de temps en temps pour soutenir le crédit du malheureux jeune homme auprès des autres. jusqu'à ce que, par le moyen de ce même crédit, il se trouvât ruiné sans ressources. Mon esprit se trouvant alors dans un état aussi désespéré que ma fortune, il n'y eut presque point de crime que je ne méditasse pour me tirer d'affaire. Le suicide lui-même devint l'objet de mes plus sérieuses délibérations, et j'y étais absolument résolu lorsqu'un dessein plus honteux, quoique peut-être moins criminel, vint chasser celui-ci de ma tête. Il s'arrêta ici un moment et s'écria : Je proteste qu'un si grand nombre d'années écoulées depuis n'ont pu effacer dans mon cœur la honte de cette action infâme. Vous me verrez rougir en vous la racontant. » Jones le pria de passer sous silence tout ce dont le récit pourrait lui être pénible. Mais Partridge s'empressa de s'écrier « Oh, je vous prie, monsieur, contez-nous cela. J'ai plus d'envie de l'entendre que tout le reste. Sur le salut de mon âme, je n'en dirai jamais un mot. » Jones allait le réprimander quand le vieillard l'en empêcha en continuant ainsi. J'avais un camarade de chambre, jeune homme très sage et très rangé, qui, quoi qu'on lui donnât fort peu pour ses plaisirs, avait pour son économie amassé plus de 40 guinées, que j'étais instruit qu'il gardait dans son écritoire. Je saisis donc une occasion de lui dérober, pendant qu'il dormait, sa clé, qui était dans la poche de sa culotte, et me rendis ainsi maître de toutes ses richesses. Je remis ensuite la clé dans sa poche, et, feignant de dormir, quoique je ne pusse parvenir à fermer l'œil un moment, jusqu'à ce qu'il fût levé et parti pour la prière, exercice auquel j'avais depuis longtemps renoncé. Les voleurs craintifs s'exposent souvent eux-mêmes, par trop de précautions, à être découverts, lorsque les plus hardis savent s'y soustraire. Voilà ce qui m'arriva, car si j'eusse hardiment forcé son écritoire, j'aurais peut-être échappé même aux soupçons. Mais comme il était clair que celui qui l'avait volé s'était emparé de sa clé, dès qu'il s'aperçut de la perte de son argent, il ne douta pas que son camarade de chambre ne fût certainement le voleur. Comme il était d'un naturel craintif, beaucoup moins fort et je crois aussi beaucoup moins courageux que moi, il n'osa pas me reprocher mon crime en face, de peur des conséquences plus fâcheuses dont son corps aurait pu se ressentir. Il s'adressa donc sur-le-champ au vice-chancelier, et sur son affirmation du vol et de ses circonstances, il obtint facilement un mandat d'arrêt contre moi, qui avait alors une si mauvaise réputation dans toute l'université. Heureusement, je couchai la nuit suivante hors du collège, ayant pris ce jour-là une chaise avec une jeune dame que j'accompagnais à Whitney, où nous passâmes toute la nuit. Et le lendemain matin, à notre retour à Oxford, je rencontrai une de mes connaissances intimes qui m'en apprit assez sur mon compte pour me faire prendre sur le champ une autre route. « Je vous en prie, monsieur, vous parla-t-il du mandat d'arrêt ?» dit Partridge. Mais Jones pria le vieillard de poursuivre, sans avoir égard à aucune de ses impertinentes questions, ce qu'il fit aussitôt. Ayant alors abandonné toute idée de retourner à Oxford, la première qui se présenta à moi fut un voyage à Londres. Je communiquai ce projet à ma compagne, qui s'y opposa d'abord. Mais je ne lui eus pas plutôt montré mes richesses qu'elle consentit. Nous passâmes en conséquence à travers champs pour prendre la grande route de Cirencester, et nous fîmes tant de diligence que le lendemain après-midi nous arrivâmes à Londres. Si vous réfléchissez sur le lieu que j'habitais alors, et sur la compagnie dans laquelle j'étais, vous n'aurez pas de peine à concevoir que je vis en très peu de temps la fin de cette somme dont je m'étais emparé d'une manière si coupable. Je me trouvais alors réduit à une détresse plus cruelle que jamais. Je commençais à compter pour la première fois parmi mes besoins les premières nécessités de la vie, et ce qui rendit ma situation plus affreuse encore fut que ma maîtresse, dont j'étais alors devenu éperdument amoureux, partageait ma misère avec moi. Voir dans l'infortune une femme qu'on aime, être hors d'état de la secourir, et réfléchir en même temps qu'on l'a mise dans cette situation, est peut-être un genre de malédiction dont aucune imagination ne peut représenter les horreurs à ceux qui ne l'ont pas sentie. « Je le crois, » s'écria Jones, « et je vous plains du fond du cœur. » Puis il fit dans la chambre 2 ou 3 tours d'un air égaré, demanda ensuite pardon à son hôte, et se rejeta dans son fauteuil en s'écriant « Grâce au ciel, j'ai évité ce malheur !» Cette circonstance, continua le vieillard, aggrava d'une manière si épouvantable l'horreur de ma situation qu'elle me devint absolument intolérable. Il m'était moins pénible de souffrir le déchirement que me faisaient éprouver les besoins les plus impérieux, tels que la faim et la soif, que de me soumettre à ne pouvoir satisfaire les désirs les plus capricieux d'une femme que j'idolâtrais avec tant d'extravagance que, quoique je susse à n'en pouvoir douter qu'elle avait été la maîtresse de la moitié de mes connaissances, j'étais fermement résolu de l'épouser. Mais la bonne créature ne voulut pas consentir à une union que le monde pouvait juger beaucoup trop désavantageuse pour moi. Sensible apparemment aux tourments journaliers que je souffrais à cause d'elle, elle résolut de mettre fin à ma misère et trouva bientôt, en effet, le moyen de me tirer de mon embarrassante et cruelle situation. Car, tandis que je m'épuisais en inventions nouvelles pour fournir à ses plaisirs, elle eut la bonté de me trahir en me livrant à un de ses anciens amants d'Oxford, par les soins et la diligence duquel je fus sur le champ arrêté et mis en prison. Je commençai alors à réfléchir sérieusement sur les fautes de ma vie passée, sur tout ce dont je m'étais rendu coupable, sur les malheurs que je m'étais attiré moi-même, et sur les chagrins que je devais avoir causés au meilleur des pères. Quand j'ajoutais à tout cela la perfidie de ma maîtresse, telle était l'horreur dont j'étais pénétré, que la vie, au lieu de me paraître plus longtemps désirable, devint l'objet de mon aversion, et que j'aurais embrassé la mort avec joie, comme l'amie la plus tendre et la plus secourable, si elle s'était offerte à moi sans être accompagnée par la honte. Le temps des assises arriva bientôt, et au terme de la loi d'habeas corpus, je fus transféré à Oxford, où je m'attendais à être infailliblement convaincu et condamné. Mais, à ma grande surprise, personne ne parut contre moi, et à la fin de la session, je fus mis en liberté, faute d'accusateur. En un mot, mon camarade de chambre avait quitté Oxford, et par indolence ou par je ne sais quel autre motif, avait refusé de pousser cette affaire plus loin. « Peut-être, dit Partridge, ne se souciait-il pas d'avoir votre sang à se reprocher, et en cela il avait raison. Si quelqu'un devait être pendu sur mon témoignage, je n'oserais plus coucher seul, de peur de voir son esprit. Je ne sais, Partridge, dit Jones, ce que je dois le plus admirer, de ton courage ou de ta prudence. Vous pouvez vous moquer de moi si cela vous plaît, monsieur. Mais si vous vouliez écouter une histoire bien courte que je peux vous dire, et qui est bien certainement vraie, vous pourriez changer d'opinion. Dans la paroisse où je suis né, ici Jones voulut le faire taire, mais le vieillard intercéda pour qu'il lui fût permis de raconter son histoire, promettant de s'occuper pendant cet intervalle à se rappeler le reste de la sienne. Partridge poursuivit donc ainsi. Dans la paroisse où je suis né, il y avait autrefois un fermier que l'on nommait Bridle, et il avait un fils qu'on nommait François. Bon jeune homme d'une grande espérance. Je fus à l'école avec lui, et je me souviens qu'il expliquait les épîtres d'Ovide et qu'il pouvait en traduire jusqu'à 3 vers de suite sans regarder dans un dictionnaire. C'était en outre un très bon garçon, qui ne manquait jamais d'aller à l'église le dimanche, et était compté parmi les meilleurs chantres de la paroisse. Il est vrai qu'il buvait de temps en temps un petit coup de trop, et c'était le seul défaut qu'il eût. « Fort bien, mais venons-en à l'esprit, » dit Jones. « N'ayez pas peur, monsieur. J'y viendrai toujours assez tôt, » répondit Partridge. « Il faut donc que vous sachiez que le fermier Bridle perdit une jument alsane, l'une des meilleures bêtes que j'ai jamais vues. Et il arriva que le jeune François, étant peu de temps après à la foire qui se tenait à Hendon, c'était, je crois, le... je ne me souviens pas du jour, et comme il y était... Que lui arriva-t-il d'y rencontrer? Un homme sur la jument de son père. François s'écria aussitôt « Arrêtez le voleur !» Comme cela se passait au milieu de la foire, vous jugez bien que l'homme ne put s'échapper. On l'arrêta donc, et on le conduisit devant le juge. Je me souviens que c'était le juge Willoughby de Noyle, homme très respectable, qui l'envoya en prison et assigna François à se trouver aux prochaines assises. Il se servit, à cet effet, d'un terme que je n'avais pas encore entendu employer, et d'une prononciation dure composée de « re » et « cognosco », mais il diffère dans sa signification du sens attaché au mot générique, comme beaucoup d'autres composés. Enfin, Milord Page, grand juge, vint tenir les assises. On fit comparaître le prisonnier d'une part, et de l'autre François pour déposer contre lui. Oh, sûrement je n'oublierai jamais la figure du juge, quand il demanda à celui-ci ce qu'il avait à dire contre le prisonnier. Il fit frissonner le pauvre François de la tête aux pieds. « Eh bien, dit Milord au prisonnier, qu'avez-vous à répondre? Il ne s'agit ni de trembler ni d'hésiter. Allons, parlez !» Cependant, il redevint bientôt aussi poli pour François que sévère pour le prisonnier. Et quand il demanda à ce dernier s'il avait quelque chose à dire pour sa défense, celui-ci répondit qu'il avait trouvé le cheval. « Ah !» répondit le juge, « tu es un heureux garçon. Voilà 40 ans que je fais ma tournée dans mon département, et je n'ai jamais trouvé de cheval. Mais je te dirai, mon ami, que tu es encore plus heureux que tu ne croyais, car tu as non seulement trouvé un cheval, mais encore une corde, je te le promets bien. » « Sûrement, je n'oublierai jamais ce mot-là. » Chacun partit aussitôt d'un éclat de rire, car comment aurait-on pu s'en empêcher? Il fit 20 autres plaisanteries dont je ne peux pas me souvenir à présent. Seulement je me rappelle qu'il y avait quelque chose sur ses connaissances en chevaux qui fit beaucoup rire tout le monde. Il faut sûrement que le juge soit un bien brave homme et un homme bien savant. Il faut convenir que c'est un amusement bien agréable d'entendre juger des causes où il s'agit de la vie ou de la mort. La seule chose que j'ai trouvée un peu cruelle, j'en conviens, c'est qu'on ne permit pas au conseil du prisonnier de parler pour lui. Quoiqu'il déclara n'avoir qu'un mot à dire, mais Milord ne voulut pas l'écouter, quoiqu'il souffrit qu'un simple conseiller parlât contre lui plus d'une demi-heure. Oui, je l'avoue, j'ai trouvé cela cruel, qu'il y en eut un aussi grand nombre, et Milord, et les juges, et les jurés, et les conseillers, et les témoins, tous sur un pauvre homme enchaîné encore. Qu'arriva-t-il? Il fut pendu, et sûrement cela ne pouvait être autrement. Mais le pauvre François ne fut jamais bien tranquille depuis. Il ne se trouvait jamais seul dans l'obscurité qu'il ne crut voir le fantôme du malheureux. « Eh bien, c'est là ton histoire ?» dit Jones. « Non, non, » répondit Partridge. « Oh Dieu, ayez pitié de moi. Voilà que je viens au fait. Une nuit, revenant du cabaret par une longue ruelle aussi sombre qu'étroite, il le voit accourir tout droit à sa rencontre. Et l'esprit était tout en blanc et tomba sur François. Et François, qui est un gaillard robuste, tomba de son côté sur l'esprit, et ils eurent là une rude prise ensemble, dans laquelle le pauvre François fut terriblement battu. Enfin, il se vit obligé de prendre des tours pour se traîner à la maison de son père, où, moitié douleur des coups qu'il avait reçus, moitié frayeur, il resta au lit, malade, plus de 15 jours. Et tout cela est très certainement vrai, et toute la paroisse peut l'attester. Le vieillard sourit à cette histoire, et Jones fit un éclat de rire, sur quoi Partridge s'écria « Oui, monsieur, vous pouvez rire, bien d'autres en ont fait autant, et particulièrement un certain gentilhomme qui passe pour ne pas valoir beaucoup mieux qu'un athée, et qui, le croiriez-vous, parce qu'on trouva le lendemain matin dans la même ruelle un veau blanc qui était mort, affirmait que le combat avait eu lieu entre François et lui, comme si un veau pouvait se jeter sur un homme. » D'ailleurs, François m'a dit plusieurs fois qu'il l'avait reconnu pour être un esprit et qu'il pouvait le jurer dans quelque cour de justice que ce fût, par toute la chrétienté, et qu'alors il n'avait pas bu la valeur de plus d'une bouteille ou deux. Que le ciel ait pitié de nous et nous garde de tremper nos mains dans le sang. Je ne dis que cela. À présent, monsieur, dit Jones au vieillard, que monsieur Partridge a fini son histoire, j'espère qu'il ne vous interrompra plus si vous avez la bonté de continuer. Il poursuivit donc son récit, mais comme il a repris haleine pendant un moment, nous croyons convenable d'en laisser faire autant au lecteur, et pour cette raison nous terminerons ici le chapitre.